Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Joël Le Bossé. Bonjour.
Bonjour.
Joël, nous avons aujourd'hui un interview exceptionnel puisqu'il se déroule dans les locaux mêmes de votre espace Barral et dont vous êtes, vous et Joël Peter, les initiateurs de ce projet.
Tout à fait.
Comment vous est venue tout d'abord cette idée de créer ce lieu de coworking ?
Alors, on va essayer de le dire en français, le coworking étant un mot très compris par les Français, mais il s'agit d'espace de travail partagé. L'idée, c'est que j'étais moi-même un utilisateur d'un lieu qui se situait au-dessus du magasin d'Ipawali. Et nous avons mis ça en place à 4 en début 2011. Et beaucoup de gens nous ont dit, dès que vous aurez un peu de place, on aimerait bien le finir avec vous. Et on s'est dit, il faudrait trouver un local plus important et plus grand. Donc on a commencé à en chercher un. Et je ne vous raconte pas le détail, mais on atterrit juste sur cette usine qui était fermée depuis 1974 et qui offrait de beaux potentiels par rapport à un projet comme celui-là. Donc ça nous aura pris presque 6 ans à le mettre en place, à le sortir de terre, parce qu'il a fallu... régler tous les aspects techniques, permis de construire, financement et puis organisation du projet.
Comment ça s'est financé ce projet pour permettre cette construction qui occupe principalement 800 mètres carrés de superficie ouverte à l'activité?
C'est ça. Alors en fait, il y a un petit peu moins de 500 mètres carrés de surface utile, mais c'est une surface de 800 mètres carrés. Et le montage financier, ça a été d'abord de trouver les moyens avec quelques partenaires d'acquérir la bâtisse, puis de la mettre à location à l'association, la Maison des Entrepreneurs du Diwa, qui est donc le gestionnaire de l'espace Barral. Et cette association a développé un montage financier grâce à l'aide de la région, du programme qui s'appelle Biovallée. Donc on a été, je pense, l'un des derniers des projets financés. La décision date de 2014. Et plus récemment, pour aider au développement plus technologique, nous avons eu un coup de main assez sérieux aussi du département dans le cadre de l'appel au projet des tiers-lieux et aussi... Nous espérons, parce que c'est en train de se finaliser, un financement du programme LEADER avec la communauté de communes et puis un financement Europe et région.
La région en elle-même, sans l'Europe, a-t-elle investi aussi sur ce projet, dans une notion d'investissement comme la nouvelle politique a été décidée au niveau de la région?
En fait, c'était une subvention, tout simplement. Ça n'est pas un partenariat financier. Mais... Soyons précis, la subvention était limitée, plafonnée à 30% du montant du projet. Il y a une bonne partie qui va être financée par des prêts et puis le reste par divers appuis financiers que nous avons trouvés.
Ce projet, est-ce que c'est un secret d'État de savoir combien il a coûté?
C'est pas un secret d'État, mais j'ai pas les chiffres avec moi. Donc ça me serait un peu compliqué pour moi d'y répondre. Mais l'ensemble des travaux, c'est à peu près 500 000 euros, quoi. Donc avec un tiers de financement public, à peu près 40 ou 50% de prêts, et le reste a été apporté de différentes autres façons.
Cette idée de projet vous est venue parce qu'il y a, il existe une certaine carence d'ateliers ou de locaux pour certains créateurs, producteurs ou artisans?
Oui, c'est clair que le besoin de locaux est très important dans le Diwa et de locaux adaptés encore plus. Je vous parlais de ma première expérience. On était dans un appartement qui comptait 4 grandes pièces avec une salle de bain et une baignoire au milieu, ce dont on n'avait pas vraiment l'usage, et un tout petit coin cuisine qu'on aurait bien voulu plus grand. Mais peut-être présenter plus largement ce qu'est l'espace Barral aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est d'abord un espace de travail partagé pour des personnes qui travaillent derrière un bureau avec un téléphone et qui peuvent travailler à distance. C'est aussi un espace de travail partagé pour des thérapeutes qui vont pouvoir, dans les trois cabinets de consultation qui sont disponibles, se relayer en prenant chacun 1 heure ou 2 heures ou 1 journée par semaine, et donc recevoir leurs patients. Et c'est aussi un collectif d'artistes et d'artisans qui vont s'installer dans la partie de rez-de-jardin qui est complètement adaptée à leurs besoins et qu'on va finaliser avec eux. Donc tous ceux qui sont intéressés, d'ailleurs, je les invite à nous contacter parce que notre stratégie, ça a toujours été de faire avec les personnes qui allaient les utiliser. À chacune des étapes, nous avons travaillé avec des utilisateurs potentiels, sans engagement de leur part, qui nous ont dit comment ils aimeraient que ce soit réalisé, qu'est-ce qu'il leur faudrait. Les thérapeutes nous ont dit, par exemple, qu'ils avaient tous besoin d'un point d'eau, ce qui n'était pas forcément une chose à laquelle on aurait pensé immédiatement.
Je voulais savoir, quelle est la place des associations prévues dans ce lieu, par exemple?
Nous avons prévu un étage associatif, on y est là, puisqu'on est dans la salle de réunion et de formation, et il y a un espace collectif de travail, un plateau de travail partagé, qui peut recevoir 10 de personnes, y compris par petits groupes. Nous avons aussi des bureaux fermés dans lesquels une association est déjà installée, qui étaient les anciens bureaux de l'usine. Donc là, c'est des bureaux pour 3-4 personnes à chaque fois. Les 3 bureaux ont d'ailleurs été pris d'assaut très rapidement, parce que là, on a un manque assez important du côté de l'offre locative, j'allais dire de qualité. Et ici, vous avez pu remarquer qu'on avait mis vraiment l'accent sur la qualité et sur la beauté de la réalisation en valorisant toute l'historique de l'usine. J'ai coutume de dire qu'on est passé dans cette usine du 19e au 21e siècle. Nous avons aussi développé une salle multimédia qui nous permet de faire des téléconférences, des visioconférences en direct avec micro et caméra et grand écran avec à peu près n'importe qui dans le monde. Et on va essayer on va offrir de toute façon, on parlait des associations, des possibilités d'avoir des débats, de recevoir ou de participer à des échanges avec d'autres sur tous les sujets.
D'autant que vous allez avoir très prochainement le réseau fibre optique.
Voilà, nous serons branchés sur la fibre optique, je pense, dans le mois qui vient. Donc on va multiplier, je l'espère, de façon importante le débit, même si aujourd'hui on est déjà bien équipé. On travaille avec de la DSL. Et par ailleurs, nous avons aussi, j'ai oublié d'en parler, un enjeu, un projet, nous, c'est de mettre l'ensemble des professionnels, je parlais d'artisans, de thérapeutes, d'associations ou de coworkers dans la même usine, de façon à ce qu'ils puissent collaborer, simplement se côtoyer, ne pas faire forcément le même travail. Et tout a été pensé pour qu'il y ait des espaces de convivialité. Il y a un coin café à peu près partout, café, thé, tisane, je précise, parce qu'il s'agit d'être assez ouvert. Une grande cuisine que vous avez pu voir, assez bien équipée, où chacun peut à la fois se restaurer le midi, mais aussi inviter ses amis et puis faire connaissance. Beaucoup sont très curieux du travail des autres, du métier des autres. Et au milieu, on a vu tout à l'heure, il y a un jardin qui va être ouvert, dans lequel il y aura des tables, des chaises, il y aura même l'accès au réseau. Donc on pourra même poser son ordinateur dans le jardin et puis continuer à y travailler. Et je terminerai en disant que l'usine est plantée en plein milieu de la campagne et de la montagne, tout en étant à combien? 5 minutes du centre-ville?
Oui, en marchant tranquillement.
À pied, en marchant tranquillement. Un jour, il ne pleut pas.
Oui. Vous parliez tout à l'heure des enjeux et de là même des articulations, des activités qui seront ici situées ici. Ça veut dire que vous veillez quand même à ce qu'il y ait des activités qui puissent se compléter dans des projets genre de la menuiserie avec quelqu'un qui pratique le travail du métal. Je ne sais pas, je vous pose la question.
Si on veut faire collaborer les artisans, il faut que ça reste compatible au niveau du bruit avec l'ambiance. Donc c'est plutôt les artisans que je qualifierais de peu bruyants, même s'ils peuvent en faire un peu de bruit, c'était bien isolé. Donc on va éviter le bruit d'une scierie ou d'une meule sur le métal. Par contre, on pense beaucoup plus aux artisans d'art qui travaillent souvent dans un coin d'atelier, qu'ils se sont faits, et aussi sont soumis à une forme d'isolement, en étant toujours un peu seuls pendant leur production. Et l'idée qui m'est venue justement dans ma pratique, un artisan travaillait avec nous, et on a tous trouvé ça très intéressant. C'était quelqu'un qui fait des bijoux, et ça a permis de pour lui et pour nous, d'avoir des moments un peu plus de convivialité et pas d'être tout seul avec sa radio ou sa musique en écoutant Radio Diwa, comme la plupart d'entre eux, j'imagine.
On peut parler du local. Quels sont les rapports que l'espace Barral a avec la municipalité, par exemple ?
Ce sont de bons rapports. Nous n'avons pas vraiment beaucoup eu à travailler ensemble parce que pour le développement économique, la municipalité a donné délégation de pouvoir à la communauté de communes. Donc c'était la communauté de communes avec qui nous avons beaucoup travaillé. Et je dois dire qu'on a eu beaucoup de soutien, beaucoup de support et beaucoup d'aide. Dans la limite évidemment des moyens dont elle dispose, mais ça a été quand même assez majeur et ça a probablement convaincu aussi d'autres niveaux de collectivités locales de soutenir le projet.
Vous parlez aussi des centres de soins de bien-être, c'est-à-dire qu'il y a des petits locaux bien aménagés, très insonorisés et tranquillisants, je dirais, et qui permettent par exemple à des naturopathes ou d'autres pratiques de soins de s'installer. Comment ça se passe si vous avez encore des lieux à mettre à disposition, comment ça se passe si des personnes veulent, par exemple, vous contacter ?
Elles nous contactent assez facilement. Là, on a fait une journée porte ouverte samedi dernier. Il est passé plus de 200 personnes pour visiter le local et je vous avoue que des demandes et des questions, nous avons eu beaucoup. Nous pouvons offrir un espace pour des activités collectives, puisqu'on a une salle de près de 75 mètres carrés, très bien aménagée, dans laquelle on a déjà du yoga, du doin et quelques autres activités qui vont s'y installer. Et on a donc trois cabinets de consultation qui sont insonorisés et adaptés, avec une salle d'attente. Et pendant la visite d'ailleurs de samedi dernier, beaucoup de gens ont discuté avec les thérapeutes pour connaître un peu mieux ce qu'ils offraient. Et je crois que ça a été une bonne chose pour les Diwa de savoir qu'il existe ici en plus une offre complémentaire, je crois, à ce qui est déjà disponible dans le Diwa.
À l'initial, vous-même et Joël Peter avez décidé de vous lancer dans cette aventure. Sur quels enjeux pour vous au niveau local, d'après vous ?
Ben, je dirais que ce qui nous rapproche, Joël et moi, c'est qu'on a toujours pensé collectif. Donc je suis à l'origine ou engagé dans tout un tas de projets collectifs, Joël aussi. Donc pour une solution comme celle-ci, on l'a forcément pensé de façon collective et autogérée. Alors seulement on sait que même quand c'est un autobus plutôt qu'une voiture individuelle, il faut un chauffeur. Et là on s'est mis l'un à la mécanique et l'autre au pilotage pour que l'opération se fasse. Là nous on a une association qui s'appelle la Maison des Entrepreneurs et tous les résidents sont ou vont devenir membres et seront donc partie prenante des décisions qui les concernent.
Et justement, tout ce lieu, sur quelle structure, sur quel modèle économique fonctionne-t-il ?
Le modèle économique, c'est qu'on a pris l'ensemble des coûts qu'on a essayé de réduire, y compris en utilisant les subventions, et on a divisé un peu l'ensemble de ces coûts pour qu'ils soient couverts. Et c'est comme ça qu'on a fixé le prix du loyer, c'est-à-dire de la redevance mensuelle particulièrement basse en fait. On est à peu près à 100 euros pour un poste de travail, à 120 euros pour un cabinet pour une journée par semaine. Et 120 euros, c'est le prix mensuel évidemment. Et donc on est toujours, nous, au prix net, au prix minimum. Le but n'étant pas de faire du profit, mais simplement d'amortir les coûts de la structure.
Voilà, donc vous avez un prévisionnel qui vous permet de connaître un petit peu les avancées et les possibilités à venir encore. Hein.
Tout à fait, mais on a été des entrepreneurs sociaux, aujourd'hui on s'appelle comme ça, parce que nous on est, je me disais qu'on pensait collectif, mais on est des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, donc il a fallu un petit peu de culot et de courage pour se dire on y va, avant d'avoir vérifié si ça fonctionnait. Pour l'instant, la réponse est très positive. Il y a encore de la place, évidemment, puisqu'on ouvre vraiment les locaux maintenant. La partie de l'étage est déjà occupée depuis le mois de juillet d'à peu près une quinzaine de personnes qui y travaillent. Et quand tous les locaux seront occupés, il y aura entre 30 et 40 personnes qui pourront y travailler simultanément. même si certains vont se relayer par rapport à d'autres. Donc pour nous, c'est un peu un village, le village de gens qui viennent travailler, qui quittent leur maison. Une des motivations de beaucoup des gens qui sont là, c'est justement de ne pas travailler à la maison, de ne plus se retrouver pris avec les couches, la garde d'enfants et puis le travail le soir parce qu'on ne l'a pas fait dans la journée. Il y a un d'entre nous qui disait « quand je sors d'ici, je ferme le bureau et je rentre chez moi ». Et c'est assez important, surtout quand on travaille à distance. Dans les gens qui travaillent ici, il y a à la fois des télétravailleurs qui ont négocié, parce qu'ils voulaient vivre dans le Diois, un contrat de travail à distance avec leur employeur de Paris, de Lyon, de Grenoble. Et en même temps, évidemment, pour l'employeur, le fait de savoir qu'ils ont une installation très professionnelle comme celle-ci, c'est beaucoup plus sécurisant en termes de confiance, parce que ça veut dire qu'il sait que et la confidentialité des informations et aussi le rapport au travail sera fait de la bonne façon.
Ce modèle de l'espace Barral, vous en êtes inspiré sur d'autres lieux qui ont déjà été créés en France ? Ou alors tout est venu de vos idées et de votre envie d'amener un pôle économique dans le Diois ?
Ben, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est que pour que ça fonctionne, un projet comme ça, ben, il faut qu'il y ait une demande, il faut qu'il y ait un besoin. Et la deuxième chose, il faut que la réponse qu'on donne corresponde exactement au besoin. Là, c'est vraiment très clair que ça satisfait les gens qui sont là. On aurait pu faire mieux, mais ils se sentent plutôt chanceux de travailler dans un espace comme celui-là. Il y a eu beaucoup d'expériences qui existent depuis longtemps. Moi, je me suis beaucoup inspiré de ce que j'ai pu voir dans des espaces de coworking, cette fois-ci uniquement avec des télétravailleurs ou des gens qui sont des geeks ou des utilisateurs d'Internet ou qui font du big data. Moi, je retiens les termes, mais je ne suis pas très amateur. Mais qui le faisaient juste, j'allais dire, par métier. Généralement, c'est plutôt dans les grandes villes ou quand c'est des petites villes, ben, à cause du besoin, c'est des petites surfaces. Là où je pense qu'il y a une innovation, je ne pense pas avoir vu ça ailleurs encore, mais peut-être, comme je suis sûr que les bonnes idées naissent partout, tout le temps, c'est d'avoir mixé 3 ou 4 secteurs d'activité dans le même endroit. Et je dirais dans une culture un peu diwale, c'est-à-dire accessibilité, facilité, et puis communication, collectivité, on met en commun. Vous avez vu la grande cuisine qu'on a là, c'est déjà fait, là tout le monde est parti, ils se font des repas et ils vont sûrement faire autre chose d'ailleurs. Et on a même été capable d'inaugurer la grande salle avec un bal folk pour voir si ça fonctionnait. Ça nous a permis de tester les rénovations qu'on avait faites et là aussi le résultat est assez probant.
La grande salle, c'est celle qu'on a visitée avec l'écran, là ?
C'est ça. Ça s'appelle le forum. On a trouvé des noms. On a voulu trouver des noms. Donc, ceux qui travaillent dans le loft industriel, qui est plutôt silencieux, ça s'appelle le co-loft. Ceux qui travaillent dans l'espace de travail partagé pour les associations, les petits groupes, c'est le cogitarium. La véranda, puisqu'elle est toute vitrée, c'est la salle de formation. Le forum, c'est la grande salle d'activité dans laquelle il y aura à la fois des activités, des assemblées générales, des différentes rencontres, des séminaires. On a même déjà des demandes pour ça. Et l'espace bien-être, il dit bien son nom, c'est là où on va prendre un peu de zénitude. La particularité aussi des locaux, c'est qu'on les a pensés et réorganisés pour qu'on puisse rentrer dans une des pièces ou aller voir la personne qu'on veut voir sans jamais déranger les autres. Tout est accessible par une porte extérieure directe.
Ici, nous sommes même dans la salle du cogitarium.
On est à côté du cogitarium, mais nous sommes dans la véranda.
La véranda, qui est doublement, qui est insonorisée avec un double vitrage, donc avec des baies, et qui permettent justement qu'on puisse parler sans déranger les personnes qui sont juste à côté.
Qui sont en train de travailler, ils ne nous entendent pas. Et on a même testé avec une douzaine ou une quinzaine de personnes en formation ou en réunion. On entend que ça parle, mais on ne comprend pas ce qui se dit. Tout le travail, c'est d'arriver à travailler ensemble en permettant à chacun de s'isoler, de se concentrer sur ce qu'il a à faire. J'ai envie de dire que pour donner un peu une image, quand vous avez un ordinateur devant vous, quand vous baissez les yeux sur l'ordinateur, vous êtes dans votre bulle. Quand vous levez la tête, vous êtes avec les autres. Mais en même temps, il ne faut pas que vous soyez perturbé. Alors, c'est un peu compliqué ça.
Toute cette rénovation, cette réhabilitation de ce lieu, vous avez fait appel à des entrepreneurs du local ou alors des gens qui ont plus de compétences pour réaménager de tels lieux ?
On a eu trois priorités. La première, c'est une préoccupation permanente d'écologie. Donc réutilisation maximale de tout le matériau qui était dans l'usine. On a utilisé des pieds de machine pour faire des tables, on a utilisé les planches de stockage pour faire du lambris et on a réutilisé l'ensemble des matériaux qui étaient par là pour valoriser. On a remis le plancher en état sans le changer, enfin bref, de réutilisation. La deuxième chose, on a voulu travailler avec les artisans locaux. Alors c'est un peu plus difficile de faire ça parce qu'ils sont souvent très pris, mais on a pu travailler avec une bonne dizaine de professionnels, d'artisans, souvent des gens qui sont multi-compétents, qui sont capables de faire leur métier et puis aussi d'élargir, et uniquement avec eux. En fait, je ne crois pas qu'on ait une entreprise qui vienne plus loin que Cré, et c'est une toute petite entreprise. Donc ça, c'était l'autre priorité. La troisième chose, c'était de travailler aussi avec ceux qui étaient historiquement dans le lieu. Donc la famille Barral a accepté de nous accompagner et puis est un peu associée à notre projet. Et aujourd'hui, ils sont très heureux de voir que cette usine fermée depuis 40 ans reprend vie et même reprend un peu plus que vie puisqu'elle commence sérieusement à rayonner.
Là, je vois sur votre brochure, vous parlez d'inventer, c'est-à-dire l'inventer dans le sens de répertorier tout ce qui existe dans le Diwa et d'y trouver peut-être une place dans ce lieu.
Tu parles de quoi ? Ah oui. Non, inventer, c'est un peu ce qu'on a fait, en fait, et ce qu'on invite à faire tous les gens qui vont venir ici. Moi, l'expérience que j'en ai, c'est que quand les gens se rencontrent, ben, ils trouvent une idée, chacun ayant son métier, une idée pour en faire un troisième, pour faire des projets nouveaux. C'est en cela où le mot de pôle économique utilisé tout à l'heure est bien choisi, parce que on est toujours plus intelligent et plus fort à plusieurs que tout seul. C'est un peu notre principe associatif ou coopératif, mais je pense qu'il y a des belles rencontres qui se sont faites déjà, et pas seulement sur un plan personnel. Il y a des gens qui vont pouvoir travailler avec d'autres ou en faire travailler d'autres. Donc on va développer par la communication entre les gens des espaces de collaboration. Donc c'est un peu la créativité dont on parle.
Moi, je pensais au mot inventé dans la notion de l'inventaire, de ce qui peut exister dans le Diwa et qui permettrait des articulations dans la création ou dans la participation ou la collaboration.
Alors, dans ce cas, l'inventaire sera plutôt celui de la circulation de l'information. Comme je disais, on est au 21e siècle, ça veut dire qu'on est à l'ère des réseaux sociaux. Et nous faisons partie d'un des 14 sites qu'on appelle des tiers-lieux, c'est-à-dire des lieux qui ne sont ni le travail ni la maison, c'est le troisième lieu de la Drôme. Et entre nous, entre tous ces lieux, il y a de la communication, chacun sait ce que les autres font. On a eu la visite des gens de l'usine vivante de Cré qui sont venus voir ce qu'on avait fait, qui sont très intéressés par le projet. Nous en avons visité aussi quelques-uns et on va se donner beaucoup de coups de main. Mais ça veut dire aussi que les gens qui travaillent dans chacun de nos endroits, de nos lieux de vie, nos tiers-lieux, peuvent aussi et vont communiquer entre eux. Et on commence déjà, puisque le 12 décembre prochain, je peux même l'annoncer aujourd'hui, il va y avoir, je pense, les horaires ne sont pas terminés, mais ne sont pas déterminés, ce sera probablement le matin, des ateliers dans les différents lieux de travail partagé du Diwa. Il y a l'atelier, il y a le CFPPA, l'accès au public des outils informatiques, pour montrer justement que quand on ne peut pas tous avoir des éléments spécialisés, ben on peut les partager et faire parler et rencontrer les gens qui utilisent les locaux, pour tous ceux qui se disent, si moi j'essaye de le faire, comment ça marche, c'est quoi l'intérêt, quoi.
Et donc vous pourriez proposer ou inviter des compétences à déjà se faire connaître au sein de ce lieu pour pouvoir être participatif ou collaboratif sur des projets.
Voilà, on appelle ça de l'économie collaborative, c'est pas par hasard, c'est exactement pour ça. Un bel exemple en ce qui concerne les thérapeutes, c'est que une journée porte ouverte comme il y a eu, ou quelques initiatives, par exemple, on imagine qu'on puisse faire des journées ou des moments de présentation pour tester, peuvent se faire de façon assez importante avec plusieurs thérapeutes au même endroit, ce qui a un effet d'appel plus important. Beaucoup de nos travailleurs, je dirais, sont déjà un peu branchés économiquement. Ici, c'est juste un lieu fonctionnel, mais il y aura toujours la possibilité pour eux de faire appel. On a deux agences de voyage, même trois agences de voyage ici, une qui fait du vélotourisme, qui s'appelle Vélo Horizon, Vercors Escapade, qui organise, vous en doutez, des treks dans le Vercors, et une autre qui s'appelle Mondes Oubliés, qui, elle, organise, je dirais, de la randonnée un petit peu découverte et sportive. Et on ne l'a pas fait exprès, ils sont trois. Donc j'imagine que ces trois-là vont trouver des espaces de collaboration et ça créera un produit d'appel. Si vous voulez faire un voyage un peu original, vous n'avez au l'espace Barral, vous en trouverez trois.
Vous disiez tout à l'heure que nous sommes dans le lieu du 21e siècle. Et en ce qui concerne l'informatique et le numérique, vous allez aussi développer la création par ce biais aussi, c'est-à-dire la création en 3D, même en virtuel, et qui puisse ensuite être créé par des imprimantes 3D, des choses comme ça. Est-ce que vous êtes en recherche ou d'essayer de trouver des voies ou des filons qui pourraient développer encore plus d'activités à venir?
Je pense oui que ça va arriver dans beaucoup de tiers-lieux. On a ce qu'on appelle des fab labs, des fabrications laboratoires, où des gens arrivent avec des projets. Donc on va pouvoir leur offrir ici la possibilité de travailler puisque nous allons avoir la fibre optique, je pense, assez prochainement. Et donc un niveau de débit qui permet ça. Alors, je disais en plaisantant que nous allons faire des visioconférences et on va attendre un petit peu pour les hologrammes, parce qu'on n'est pas encore tout à fait équipé. Mais si on a par exemple un conférencier intéressant qui donne une conférence en Angleterre ou en Belgique au Canada, on pourra assister en direct à sa conférence et même lui poser des questions. Donc ça peut donner aussi quelques idées intéressantes pour des gens qui, sur des thèmes, je pense en particulier la responsabilité, l'écologie, les circuits courts, tout ce qui concerne beaucoup, j'allais dire, une approche plus humaine et moins consumériste de la vie. On a besoin de se connaître, de se faire connaître. Il y a déjà beaucoup d'initiatives dans le DIY. Celle-ci vient donner une petite plus-value en plus et vient surtout en complément de ce que tous les autres font.
C'est très innovant, donc l'espace Barra Alain dans le secteur de l'emploi aussi.
En fait, l'emploi, nous, on dit qu'on va maintenir des emplois parce que les gens, puisqu'ils vont travailler dans un endroit comme ça, vont être un peu plus motivés. Éventuellement, je pense en particulier aux auto-entrepreneurs, on les appelle maintenant des micro-entrepreneurs, donc des gens qui se lancent, qui, pour gagner leur vie et être économiquement rentables, facturent un peu à la pièce. C'est plus facile de faire ça quand on est avec d'autres que quand on est tout seul. Il y a des coopératives d'activité qui le permettent, mais formellement, les gens sont plus en extérieur. Ici, c'est parce qu'ils vont. J'ai déjà connu ça dans une autre vie. Quelqu'un qui disait, j'ai pas de travail aujourd'hui, mais j'avais envie de venir, quoi. Et ça fait qu'on a une vie sociale au travail, on retrouve une vie sociale au travail, alors que sinon, on serait simplement marginalisé et simplement utilisé au coup par coup quand il y a une commande, et à travailler la tête dans le guidon, et puis ensuite attendre la prochaine commande.
Il y a le mot mutualiser qui est très en vogue en ce moment pour justement pallier aux difficultés économiques et de prendre par exemple des choses à plusieurs pour réduire les coûts. Est-ce que vous, le sens mutualiser, c'est dans cette optique-là ou alors c'est aussi regrouper les compétences?
Ben nous, ce qu'on mutualise ici, c'est les locaux. C'est les moyens. Et donc, plutôt que d'avoir, on est dans une salle de réunion, je disais qu'une association pour avoir une salle de réunion dans le Diwa, pour tous ceux qui ont essayé, c'est assez sportif. Donc avoir une salle de réunion facile à utiliser, ne pas être obligé de payer un loyer pour les mètres carrés qui finalement sont très peu utilisés, eh bien c'est ça. On mutualise la salle de formation, on mutualise les moyens logistiques comme la grande salle de communication, la télécommunication aussi, et puis la fibre optique. Ce sont des choses que individuellement on aurait du mal à pouvoir atteindre.
Est-ce qu'on pourrait penser aussi à une mutualisation du domaine administratif, de toutes ces activités, par exemple ?
Ça, c'est quelque chose qui arrive un peu spontanément. Moi, je suis très demandeur. Hein. Tout le monde a un peu d'administration et pas forcément très doué pour ça. Ou quand il l'est, il n'a pas forcément le goût ou le temps. Ou tout ça en même temps. Donc, des personnes qui sont capables de faire des services d'administration, d'administration au sens large, hein, la paperasse, la comptabilité, la gestion des factures, et qui pourraient, quelques heures par mois pour chacun des autres, faire un petit peu de service, donc à des coûts très bas, c'est tellement plus facile quand tout le monde est sur place. Je disais en plaisantant qu'une ostéopathe qui va s'installer ici, je veux dire, je pense que tu vas voir la moitié de la bâtisse qui va être ta cliente, parce qu'entre ceux qui sont toujours derrière l'ordinateur et ceux qui vont travailler un peu en artisanat, c'est souvent très très utile. Et là, c'est la même chose. Aller voir l'ostéopathe quand on travaille, c'est pas facile. S'abstenter une demi-heure parce qu'il a l'étage du dessous, c'est beaucoup plus confortable. Donc c'est ça, on mutualise les moyens et on réduit la distance aussi.
Vivre ensemble, ça c'est l'idée globale hein, de ce qui regroupe l'espace Barral. Vivre ensemble, c'est aussi, vous parliez d'enfants tout à l'heure, est-ce qu'il y aura peut-être un petit espace pour des personnes qui ont des enfants de bas âge, qui permettent d'être sur le lieu même ?
C'était notre souhait au début. Et assez rapidement, on a été assez découragé compte tenu des normes qu'il faut mettre en œuvre pour permettre d'accueillir des enfants. On peut comprendre très bien qu'il y a des problèmes de garderie, de sécurité, d'accès. Mais là, on ne pouvait pas tout faire dans cette usine, donc on a été obligé de temporiser. Donc, mais l'idée d'avoir des relations avec des... Nous, ce qu'on voulait, c'est que des personnes puissent avoir un enfant, le mettre à la garderie et puis travailler en même temps. Mais ça, faire fonctionner une garderie, c'est quand même en dehors, je crois, des moyens du projet. Et c'était finalement pas très apprécié par les gens qui voulaient nous aider. Ils pensaient qu'on a un peu tendance dans notre vie à sectoriser le travail, les loisirs, les besoins, alors qu'une femme... ou un homme d'ailleurs qui a un enfant, ben lui travaille, il a un enfant, il peut peut-être essayer d'avoir une offre globale. Alors je dirais que c'est un peu compliqué dans le Diwa quand même ça.
Alors l'espace, ce sont des ateliers, vous pouvez recevoir jusqu'à combien de personnes ? Je crois que vous pouvez avoir proposé jusqu'à combien d'ateliers par exemple ?
Au niveau des ateliers pour les artistes et artisans d'art, moi je dirais qu'il peut y avoir entre 12 et 15 personnes qui vont avoir, non pas des box, mais des espaces partagés où ils pourront mettre sous clé ce qu'ils ont besoin de mettre sous clé, puis en même temps aussi partager le matériel. C'est souvent ce que l'on fait. On se passe une machine et on peut plus facilement développer des choses parce qu'on a d'autres compétences pas loin qui vont vous aider. Donc là encore, ça va être de la mutualisation, de la collaboration. Et ça va être en fait ce que les gens qui vont le monter vont le souhaiter. Nous, on a pour l'instant les locaux disponibles, ils sont équipés, ils sont alimentés, y compris au niveau informatique, de l'eau, de l'électricité. Ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, ben, ça va être... On a déjà travaillé avec une dizaine hein, d'artistes et d'artisans qui nous ont dit qu'ils étaient intéressés. Et là, on va les réunir début de l'année et puis on va mettre en place les moyens pour qu'ils puissent y travailler. Et d'autres viendront quand ils verront comment ça fonctionne. C'est un peu ce qu'on a fait jusqu'ici et qu'on va continuer à faire.
Vous envisagez aussi une partie réservée à la mémoire de l'usine Barral, je crois, puisque vous êtes toujours en possession des vieilles machines qui sont pour l'instant stockées. Mais vous comptez en faire quoi à l'avenir hein ?
Là aussi, on a un petit comité qu'on a baptisé « Mémoire ». justement. Et ce sur quoi on s'est arrêté, c'est d'une part garder un espace pour montrer ce qu'étaient les usines, et surtout parce que c'était là où on produisait l'électricité, les turbines et les grosses machineries qui d'ailleurs faisaient un boucan assez incroyable. Il y a aussi beaucoup de machines, de ce qu'on appelle des métiers, qui servent de métiers à tisser, de métiers à, de toute nature. Je ne suis pas un professionnel, mais il y a à peu près une cinquantaine de machines dans l'usine. Et sur ces machines, on va en céder un bon paquet. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est offrir à des artistes la possibilité de les personnaliser, d'en faire quelque chose, de leur redonner une deuxième vie. Dans l'état ou en prenant des morceaux et en faisant autre chose. Parce que je ne suis pas très intéressé, on n'est pas très intéressé à les envoyer à la casse, quoi. Il y a plein de choses. Il y a des belles machines qu'on va conserver. Donc ça, c'est une partie de la mémoire. La deuxième partie, ça va être un peu... On a retrouvé des archives, et des archives qui sont, qu'on peut faire circuler, mais qui vont montrer soit des photos, soit des extraits de moments, comme des consignes de fonctionnement, qui vont rappeler un peu ce qu'était l'usine. Ça, ce sera un petit peu en dernière partie, quand on aura terminé tout ça. On a conservé tout ça dans une petite salle d'archives, et on a 3 ou 4 personnes qui sont intéressées pour voir un peu comment on pourrait valoriser.
Si on peut s'intéresser, si on veut s'intéresser à ce que vous faites et ce que vous proposez, vous avez un site internet ?
Oui, c'est www.espace-6baral.org.
La famille Baral, quelle est son implication à l'heure actuelle sur ce lieu ?
Ben, la famille Baral, c'est plutôt d'une succession, hein, parce que les parents, le père d'ailleurs est décédé dans l'usine, parce qu'en nettoyant l'ensemble des outils de production, il est tombé dans la chute d'eau. La chute d'eau, parce qu'ici il y a de l'eau qui passe sous l'usine, c'est l'eau du canal qui alimentait beaucoup justement toutes les machineries, toutes les turbines. Et la famille Baral en fait deux choses avec nous. Ils ont d'abord accepté de vendre l'usine parce que curieusement celle-ci ne voulait pas la vendre. C'était un souvenir, ils y étaient très attachés, mais ils ont beaucoup aimé le projet, donc ils ont accepté de la vendre. Et ils ont accepté de faire partie de la SCI qu'on a montée pour racheter l'usine, de façon à la sortir de l'indivision Baral, de la succession, et de la mettre à disposition de l'association. Donc ils sont nos associés, en fait, de façon très minoritaire, et c'est vraiment pour le principe, d'une part, nous on y tenait, mais aussi, et puis aussi un bon coup de pouce, un bon coup de main, ils nous encouragent beaucoup. Ils nous facilitent beaucoup la vie, ce sont des vrais partenaires.
Alors, le 30 novembre, c'est quel jour à
venir ? C'est jeudi.
Jeudi, c'est le 30 novembre, donc vous procédez à l'inauguration, je crois, du lieu.
Oui, c'est ça. Ça va être l'inauguration officielle, cette fois-ci avec tous les institutionnels qui vont rencontrer les occupants du lieu, enfin une partie d'entre eux. L'idée, c'est de voir à quoi, entre un dossier qu'on a présenté, et qui était sur le papier, et le résultat, de voir comment ça fonctionne. Et puis de montrer qu'on a tenu nos promesses. Hein, on avait des engagements, on les a tenus. Et je pense que, notamment, la communauté de communes est très satisfaite, très contente de ce projet-là. Ça fait plusieurs fois que j'entends dire que ça va être une vraie plus-value pour le Diwa, comme beaucoup, je crois, de projets collectifs. Je pense à la Carline, aussi au vieux monastère de Sainte-Croix, et à quelques autres comme ça qui... par l'initiative de quelques-uns, ont redonné une offre économique intéressante et créé aussi beaucoup d'attractions. Un des enjeux, hein, de ce qu'on appelle le tarif partagé, c'est de ne pas faire concurrence à ceux qui existent déjà. D'ailleurs, à mon avis, le problème ne se pose pas parce que la demande est très forte, mais beaucoup plus de faire venir des gens de l'extérieur, de permettre à des gens qui veulent s'installer dans le Diwa d'avoir un lieu de travail à se proposer. Alors on a un petit film vidéo qui va circuler à partir de l'inauguration, qui présente ça et qui va, je crois, se balader dans les réseaux sociaux, bien au-delà du Diwa, de la Drôme, de Lyon et même de Paris. On a même une personne qui vit en Angleterre et qui travaille avec nous aussi ici. Donc ce sont des... C'est une forme de nomades du travail qui viennent soit pour venir... travailler quelques mois, soit pour venir s'installer dans le Diwa sans être complètement collé avec des investissements trop lourds.
On peut parler de télétravail aussi et de créer peut-être des petites périodes d'emploi.
C'est déjà une bonne partie des gens qui travaillent dans des lieux comme le nôtre, comme celui de l'atelier qui est Place du Marché. Ce sont des gens qui ont des contrats à distance, qui sont salariés même de certaines entreprises, donc ils sont en télétravail. Mais plutôt de travailler chez eux, ils travaillent dans un endroit professionnel. Alors c'est sûr que pour eux, ça leur permet de convaincre leur employeur, de leur donner la chance de pouvoir vivre comme ils le souhaitent. On n'est pas encore là en France, hein. Il y a encore beaucoup de réticences, mais il faut dire que les règles qui viennent d'être changées, d'ailleurs, étaient particulièrement contraignantes pour le télétravail. Mais ça devient aussi une autre forme d'organisation du travail. Il y a maintenant des entreprises qui ont beaucoup moins de surface de bureau et payent justement dans des endroits comme ça pour que leurs salariés puissent être à distance. Et parce que beaucoup de choses se font, beaucoup de gens travaillent à distance de toute façon, même qu'ils sont dans leur bureau. Donc qu'ils soient là ou ailleurs, ça ne change rien. Par contre, s'ils sont heureux et s'ils sont bien, ben, ça change beaucoup de choses et ça permet aussi de les fidéliser, de les garder.
La fabrication de l'objet ou du projet en final, comment dire, se fera toujours ailleurs, au loin, ou alors ça pourrait aussi développer des activités dites manuelles à la suite de ce type d'atelier qu'on peut trouver ici.
Là, on parle plutôt de la partie Fab Lab, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des imprimantes 3D pour produire des pièces, des outils. On va vers une grande transformation, je pense, qui va rendre ce genre de projet beaucoup plus accessible et beaucoup plus décentralisé.
Est-ce qu'on peut parler de fabrication par imprimante 3D ou alors la fabrication comme de l'imprimante 3D pour un prototype qui peut ensuite être, comment dire, répliqué, soit artisanalement ou industriellement?
Les imprimantes 3D sont théoriquement capables de refaire des pièces détachées de beaucoup d'outils de votre électroménager, du mien. Demain, normalement, c'est possible. Maintenant, il y a encore un certain nombre de petits problèmes technologiques à régler. Et celui des microparticules en particulier, parce qu'une imprimante 3D, il va falloir que, si jamais on en fait des plus imposantes, ce qui va arriver, elles soient particulièrement filtrées. Les microparticules, dont on dit beaucoup de mal en ce moment, c'est pas le moment de s'en fabriquer pour les avaler, quoi. Donc, la technologie n'est pas totalement prête. Par rapport à la question que vous posiez, le télétravail aujourd'hui, c'est beaucoup plus le terme un peu grec, hein, travailler à distance, télé. Donc, quelqu'un qui. Il y a des métiers aussi plus faciles. Vous donnez un dossier à faire à quelqu'un, il a une semaine de travail, il peut le faire chez lui, il peut le faire ici. Si vous êtes responsable de la communication d'une entreprise, à distance, c'est un petit peu plus difficile. Si vous faites du secrétariat, il y a des travaux qui peuvent se faire à distance et d'autres pas. Donc, quand on fait télétravail, ça veut dire que les gens, c'est le cas ici, reviennent assez régulièrement dans l'entreprise, travaillent avec d'autres et puis repartent avec des commandes et puis des délais de production. C'est plutôt une nouvelle forme de travail qui est en train de s'installer dans quelques petites entreprises, souvent technologiques. Parce que dès qu'on travaille sur de la programmation, sur des choses qui sont à faire sur ces réseaux Internet, on parlait d'utiliser la 3D. Moi, je pensais plus à la 3D d'animation, par exemple. Eh bien, il faut des grands écrans, il faut du matériel comme ça, mais vous pouvez faire ça n'importe où de la France ou du monde où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être dans le bureau de l'entreprise qui fabrique. C'est plutôt une question de culture d'entreprise qui va faire que ça deviendra facile. Et j'insiste aussi pour dire que ça peut être une très très belle opportunité pour les entreprises de garder des gens qui sont très bons mais qui n'ont pas envie de faire une heure de travail, de votre trajet le matin, une heure le soir pour se retrouver dans un bureau avec d'autres et qui, ici, là, tout le monde le dit, moi j'ai un quart d'heure de transport par jour et c'est ma qualité de vie, quoi.
Vous parliez de nanoparticules ou
Micro.
microparticules. Vous préférez dire microparticules?
Micro et nano, les deux.
Voilà. Sachant qu'il y a un pôle de recherche et de développement sur Grenoble, est-ce que vous envisagez des collaborations à venir aussi et puis peut-être implanter des activités comment dire, plus rentables pour chacun aussi?
Ce qui existe à Grenoble, et les centres de recherche ont besoin de matériel de très haute technologie. Mais je pense que nous, on sera plutôt dans la phase d'après, une fois qu'il y aura des protocoles de production qui seront organisés. Je suis sûr qu'il va y avoir des personnes qui vont lancer leur petite entreprise et qui pourront s'équiper de cette façon. Là encore, un outil peut coûter cher si on est seul à l'utiliser. Et la mutualisation dont on parlait ici, ben c'est, j'allais dire, un peu la suite logique des initiatives que pourront prendre les gens qui viendront s'installer ici.
Joël Lebossé, la dernière question. Est-ce que vous éprouvez une certaine fierté pour ce lieu?
Ah oui, tout à fait. On est tous très fiers du travail qui a été fait et on est très fiers aussi d'avoir permis cette usine qui était dans un no man's land, hein, pour ceux qui connaissent le Diois, les usines Barral, le coin des fonds d'eau, c'était des usines fermées, quoi, hein, taguées, enfin, il y a même eu ici des squats, c'était vraiment pas beau. Et là, on est en train de redonner un peu de respiration à ce qui était un poumon industriel de la ville. Et ça a produit aussi d'autres effets. Le terrain d'en face est en train de se viabiliser, il y aura des maisons. Celui d'à côté, il y avait une autre usine Barral qui a été rachetée, qui est complètement rénovée par un architecte qui travaille sur plusieurs endroits de la France. Il y a juste derrière un moulin, un ancien moulin qui va être rénové, où on aura des appartements. Donc là, on voit qu'à partir du moment où vous commencez à remettre en vie un bâtiment comme celui-ci, eh ben, c'est un peu le premier qui permet aux autres d'avoir envie de partir. On préfère tous habiter à côté de quelque chose de neuf plutôt que d'être à côté d'une ruine, quoi, hein, tout simplement. Alors, ça aura permis quand même de lancer tout ça. Donc, on est un peu fier de tout ça. Mais moi, ce qui me rendra le plus fier, c'est quand je pourrai dire je pars à moi et que tout ça va rouler tout seul, sans qu'on ait besoin de s'en occuper, parce que les gens l'auront pris en charge. Parce que c'est ça l'objectif, c'est que ça tourne uniquement avec ceux et l'énergie qu'ils ont de se partager les petites choses à faire pour que ça continue à coûter pas cher, être beau et efficace, et qu'en même temps, ben, on puisse contrôler un peu ce qu'on fait pour eux, quoi.
Ce qui sera en bonne voie, je pense.
C'est en bonne voie, oui, tout à fait.
Eh bien, Joël Lebossé, merci de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous présenter donc l'espace Barral avec l'inauguration officielle qui aura lieu le 30. C'est ouvert au public?
Pas tout à fait, non, pas
Non.
vraiment, pas vraiment.
Voilà. Et puis, vous, il y avait les portes ouvertes aussi ce
Ça,
week-end,
c'était ouvert au public, oui.
avec un beau succès, puisque
Oui, oui,
il y
oui,
avait plusieurs centaines de personnes
oui.
présentes.
Qui sont passés. Là, il y avait des Diois de toutes les générations, ceux qui ont connu l'usine, ceux qui ont travaillé, ceux qui ont connu les gens qui travaillaient, et puis des jeunes qui cherchent à voir comment, dans des espaces comme ça, ils peuvent trouver des belles occasions pour eux, en tout cas, de développer leurs activités.
Eh bien, bonne soirée.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Interview. 1 Terre.
Okay, the bird.